Ici, Radio Himalaya, la voix de la France. C'est Marie-Hélène Garcia, de l'UMISIEL Ange Adonai de Paris, qui vous parle. Bienvenue à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de partager la construction du temple de Salomon, qui est notre œuvre à chacun. Grâce au vénérable maître Lakshmi et vénérable maître Samael, nous allons pouvoir rafraîchir les éléments de cette construction et réellement nous allons voir que cette œuvre, elle est en fait à la portée de tous parce que nous avons tous les éléments pour la réaliser. Néanmoins, il nous faut toujours une information et une didactique. Donc, on sait que les textes sacrés sont toujours écrits dans un langage symbolique. Et le Christ lui-même, pour parler aux foules, utilise le langage des analogies qui sont les paraboles. Dans le cas de Salomon, les pasteurs et tous ces religieux, on va dire, affirment que Salomon, c'est le maximum de la sagesse. Donc le summum de la sagesse même. Donc on en déduit, si Salomon est le summum de la sagesse, cela veut dire que nous, on ne pourrait pas y arriver. Donc on nous fait croire en fait qu'on est des idiots. Mais le maître Lakshmi nous dit, non, nous ne sommes pas idiots, nous sommes révolutionnaires. Et donc nous pratiquons la révolution de la conscience. Parce que si nous ne faisons pas la révolution de la conscience, alors effectivement, nous restons enfermés dans ces souterrains, où ces religieux nous enferment par leurs théories. Donc, il y a de très belles représentations de la construction du temple de Salomon qui sont faites sur la base de ce que l'histoire raconte. Et en fait, il y a deux Salomon dans la Bible. Il y a un Salomon constructeur du temple et il y a un Salomon qui est celui des Cantiques des Cantiques. Donc, l'histoire nous raconte que les constructeurs du temple, appelés par Salomon, étaient bien intentionnés, mais qu'ils n'avaient pas la science pour le faire. Donc, c'était un désordre d'opinion à propos de la marche à suivre, comme sur l'emplacement des matériaux et la qualité également. Enfin, il fallut aller chercher un architecte pour diriger la construction du temple. Et en réalité, cet architecte, c'est Hiram Abiff. Donc, l'œuvre du temple de Salomon, bien sûr, c'est l'œuvre du Père. Donc, il est impossible de faire l'œuvre du Père si on ne respecte pas ses desiderata. Alors, si Salomon est notre intime, qui est Hiram Abiff ? Hiram Abiff, c'est le Christ. Bien. Le maître Lakshmi nous rappelle que faire notre œuvre, ce n'est pas une question de temps. C'est une question de volonté. Donc, voyons quel est le cahier des tâches pour la construction du temple. Tout d'abord, évidemment, il nous faut un fondement. Donc, voyons encore ce que nous dit le maître Lakshmi. Il nous dit, Moïse, dans l'Exode, passe par un désert. Ce désert s'appelle le désert de Canaan. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapport avec le Canaan des noces de Canaan où le Christ a réalisé son premier miracle. Et que veut dire Canaan ? Eh bien, cela veut dire pierre, roche, rocher. Les alchimistes du Moyen-Âge savaient qu'il faut édifier le temple de Salomon. Et qu'est-ce qu'une roche nous dit le vénérable maître Samael Anveor. Dans ce cas-là, la roche, c'est la pierre philosophale. La pierre vive, c'est le sexe. La roche sur laquelle nous devons lever le temple intérieur pour le Christ intime, notre Seigneur. Il nous faut construire, lever le temple intérieur, il faut l'édifier sur la roche et non pas sur le sable. Voyons cet extrait de la Bible. Ceux qui m'entendent et accomplissent ce que je dis, je les comparerai à un homme prudent qui édifia sa maison sur la roche. Entre parenthèses, dit le maître Samaël, le sexe. La pluie tomba et les rivières furent en crue et il y eut des vents et la maison ne tomba pas. Elle ne céda pas parce qu'elle était cimentée, fondée sur la pierre. Donc, le sexe. Et celui qui écoute et qui n'accomplit pas, je le comparerai à un homme stupide qui édifia sa maison sur le sable. Le maître Samaël nous dit, les théories de toute espèce, des pratiques en quantité, mais à l'exclusion du maïtuna, la magie sexuelle. Et les pluies vinrent, et les vents, et il y eut des crues, et la maison céda, elle s'effondra. Le maître Samaël nous dit que cet homme tombe à l'abîme. Bien, nous allons faire une respiration profonde. Donc, il va nous falloir, pour travailler à cette édification, maintenant qu'on sait qu'elle doit être fondée sur l'énergie sexuelle, évidemment, la pierre saline, la pierre philosophale, qui va devenir la pierre philosophale. Alors, que devons-nous faire? Premièrement, il nous faut opérer des corrections en ce qui concerne nos sens. Il nous faut, on l'a déjà vu, avoir une hygiène de nos sens. Ensuite, il va nous falloir procéder à une organisation psychologique. Évidemment, cette organisation psychologique part de l'ubication, de l'auto-observation et aussi du développement des chakras ou des églises. Ensuite, il nous faut travailler à notre régénérescence ou régénération, comme on veut, énergétique. Saint Paul nous dit que, en ce qui nous concerne, nous sommes le temple du Dieu vivant, en réalité. Bien sûr qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. Donc, pour l'alchimiste, le temple de Salomon, c'est le temple de l'être intime où il va officier un jour. Cessons donc, comme nous le disent les maîtres, de lire les écritures sacrées au pied de la lettre. Par exemple, l'invocation du sage Salomon est une invocation qui compte 10 parties autonomes de l'être. Les 10 séphirotes. Voilà la structure qui apparaît. Donc, le Salomon qui écrivit le Cantique des Cantiques, ce n'est pas le même que celui qui construit le temple. Donc, nous devons construire ce temple sur le fondement le plus solide, c'est-à-dire la roche, l'énergie sexuelle, le sexe, parce qu'il nous faut présenter notre œuvre au Logos. Et aussi, nous avons besoin de ce corps physique en parfait état, bien structuré pour l'exode. Nous allons faire une respiration profonde. comme nous allons le voir, toutes les instructions qu'ils ont été données depuis la première chambre nous amènent à notre grande œuvre, à l'édification de notre temple intérieur. La construction de ce temple de Salomon, pour notre intime, comporte sept ordres. Premièrement, la négation ou mort de la personnalité. Deuxièmement, renonciation au monde, à ses systèmes. Renoncer, dans Pistisophia, on trouve tout ce à quoi on doit renoncer. Troisièmement, sanctification. La sanctification, évidemment, c'est un comportement constamment droit. C'est le chemin pour incarner l'âme. Quatrièmement, une organisation. Mettre toutes nos valeurs à leur place et avoir une bonne discipline. Cinquièmement, la chasteté. Le véritable commandement de la vie, c'est ne pas tuer. Le pire crime que nous pouvons commettre pour arriver à Dieu, c'est de tuer le sperme sacré. Parce que de tuer le sperme sacré pour satisfaire ses passions. Parce que, en fait, on arrive à Dieu uniquement par le sperme sacré. Donc, ne pas tuer, c'est aussi chasteté. Sixièmement, aimer Dieu par-dessus tout. Celui qui veut aimer Dieu par-dessus tout ne fornique jamais. Et c'est ainsi qu'il le lui démontre. Quant à aimer notre prochain, puisque aimer Dieu par-dessus tout et le prochain comme soi-même, quant au prochain, il est évident que si nous voulons arriver à l'aimer, nous aurons à cœur de ne pas le voler d'aucune manière. Le voler en ce qui est matériel, mais pas non plus lui voler son honneur. Par exemple, aussi, ne pas faire de faux témoignages à son endroit. Ne pas avoir un comportement qui aille à l'encontre de l'amour. En réalité, sont aussi compris à l'intérieur de ces personnes qui manquent de respect matériellement ou à l'honneur de quelqu'un. En fait, ce sont aussi des gens qui se croient supérieurs au maître. Et en fait, ce sont des caïfs. Le caïf, c'est le traître qui ne peut pas avoir de lumière. Par exemple, ceux qui dénigrent leurs frères sont caïfs. Au lieu de cela, nous savons que nous devons lever le temple de Salomon. Donc, seuls vont y parvenir ceux qui sont sérieux et responsables, à condition qu'ils se proposent de l'édifier, bien sûr. Hiram Abiff doit diriger, avec ses ingénieurs, la construction du temple. Et qu'est-ce qui va former la structure de ce temple, quelles vont être les pièces principales et dans quel ordre on va pouvoir les mettre pour obtenir cette construction? Eh bien, je vous donne rendez-vous après une pause. Voilà, ne partez pas. Je vous propose donc cette pause et nous reprendrons après. Merci. Nous allons faire une pause. Ne partez pas, nous allons revenir très vite. Merci. Voilà donc après cette pause. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et merci pour ceux qui sont restés. Donc nous disions que nous allions parler de la structure du temple. Donc nous avons vu qu'il y a déjà 10 séphirotes et maintenant bien sûr il nous faut arriver à mettre en place 7 pièces maîtresses qui sont dans l'ordre. Premièrement, le temple de la famille Gabriel. Deuxièmement, le temple de la médecine Raphaël. Troisièmement, construire le temple d'Uriel. Quatrièmement, construire le temple de Michaël. Cinquièmement, le temple de Samaël. Sixièmement, le temple de Zachariel, la justice. Nous avons vu dans l'exposé précédent la compréhension que si nous sommes injustes, nous ne pouvons pas arriver à Dieu. Pour ce qui concerne Zachariel, il faut bien comprendre que la justice, ça veut dire fini la convoitise, fini l'envie, fini l'égoïsme. Bien. Et le septième, donc, c'est le temple d'Orifiel, qui demande un travail ordonné dans la mort de l'ego. Donc, voilà les éléments qui sont en place pour la construction du temple. Bien. Alors, nous savons que nous devons travailler dans ces 7 aspects, et en fait, quand nous pouvons travailler dans ces 7 aspects, évidemment, nous avons le droit aussi de travailler avec 4 autres éléments de base qui se trouvent dans notre corps vital ou éthérique. Nous nous rappelons que nous allons conquérir l'élément éther et que le temple de Salomon étant fait à partir de l'énergie sexuelle, donc il est évident que ça a un rapport immédiat avec une répercussion immédiate avec la pierre cubique de Yesod. Bien, donc le vénérable maître Lakshmi nous fait remarquer que ces éléments dont on parle, dont il parle, ils sont en fait à la portée de tous parce que nous les avons tous à l'intérieur de nous. Le tout, c'est de se proposer de les utiliser pour arriver à concrétiser le temple de Salomon, le temple de notre être en nous. Le premier éther, c'est l'éther de vie. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'éther de vie? Eh bien, on va faire des exercices, de la vie à l'air libre. Bon, peut-être un peu difficile pour beaucoup en ce moment de confinement, mais enfin, on peut toujours ouvrir là où les fenêtres et faire de grandes respirations. Ensuite, pour aller à l'exode, il faut se rappeler que nous devons avoir un corps bien structuré. Donc, là, il va nous falloir non seulement l'alchimie, mais aussi l'alimentation. Donc, il faut faire attention à l'auto-empoisonnement, à l'auto-intoxication dans les 3 aliments hein, ce que nous mangeons, ce que nous pensons et les émotions. Donc, réfléchissons, méditons sur ces phénomènes d'auto-empoisonnement, auto-intoxication. Il faudrait que nous arrêtions de détruire ce pauvre corps. Bien, l'éther chimique. L'éther chimique, en fait, c'est tout le processus que l'organisme met en place pour continuer à vivre. Bon, bien entendu, nous allons mourir, ça, c'est quelque chose qu'on sait, c'est la couronne de tous, mais au moins que ce ne soit pas, disons, en ayant attenté, en provoquant des désastres dans les fonctions biologiques de notre corps. Donc, réellement, c'est une grande responsabilité que nous avons, puisque le corps, lui, il fait tout ce qu'il peut pour continuer la vie, alors nous pouvons coopérer avec lui. Ensuite, nous avons l'éther luminique. L'éther luminique, nous allons l'alimenter, nous allons l'élaborer, l'entretenir avec l'auto-observation, l'ubication, la perception constante de nous-mêmes. Cet éther luminique, c'est une fonction de la mère divine, en nous. Et la désubication empêche la mère divine de nous aider. Parce que c'est notre mère qui nous dit « Réveille-toi, mon enfant !» Donc, l'éther luminique, c'est une substance bioélectromagnétique de type électronique qui a à voir avec la mère en nous. Rappelons-nous de demander son aide à notre mère et rappelons-nous aussi de lui dire « Merci pour m'avoir éveillée. J'étais un vrai somnambule, en train de rêver, en train de penser à des sottises. Je te remercie pour m'avoir aidé. » Nous allons faire une respiration profonde. Nous allons faire une pause. Ne partez pas, nous allons revenir très vite. Merci.
La programmation Un instant avec votre être, du lundi au vendredi à 15h, animée par Marie-Hélène, vous sera diffusée par la radio Himalaya, La Voix de France. Himalaya, la voix de France.
maintenant l'éther réflecteur. Voilà, la mystique, la prière, la contemplation sont des fonctions du Christ intime en nous. Alors, les électrons de tous nos atomes se mettent en mouvement et nous aident à acquérir la lumière. Donc, en résumé, on a observation, auto-observation, discipline et, en matière de nourriture, respiration. Bien entendu, le temple de notre Salomon intérieur a aussi les 10 fonctions qui sont en fait le ciment unitif, c'est-à-dire l'union des parties entre elles par la semence, par le semen, à partir de Malkout, le corps physique. Évidemment, on parle de l'arbre séphirotique. Bien. D'autre part, l'éther agit depuis notre glande pinéale, on se rappelle que c'est là que se trouve le père, et alors attention à la désubication, parce qu'elle charge notre glande pinéale de nuages denses, sombres, épais. Et d'où viennent-ils ces nuages? Eh bien, ils viennent des pensées négatives de notre mental terrestre. Et quand c'est ainsi, donc, il est impossible de s'éveiller, parce que si notre glande pinéale est épuisée par ces pensées nuisibles, on se rend bien compte qu'elle est absolument inutile pour le travail qu'on est en train de faire. Maintenant, nous avons aussi l'atome du Christ. L'atome du Christ, lui, c'est le centre moteur. Et évidemment, le sacratissime Esprit et Esprit Saint, c'est le centre émotionnel. Soyons pratiques. Travaillons sous la direction d'Iramabif, le Christ. Notre corps, contrairement à ce que nous pensons, est précieux et il a un prix très élevé. Maintenons-nous propres. Donnons-lui de bons remèdes, un bon aliment, une bonne transmutation, une bonne inspiration, de la prière, un bon repos. Parce que ce qui ne vaut rien, ce n'est pas notre corps, c'est notre personnalité. Si nous pratiquons la non-violence, ahimsa, la non-opposition au mal, c'est ainsi que Iramabif va pouvoir nous réparer et va pouvoir construire ce temple qui, jusqu'à présent, on doit dire, est assez désordonné. Et c'est lui qui va le remettre au Père. Quand nous sommes en état d'ubication, si nous sommes entièrement ici et maintenant, alors qui est là? La Mère divine, qui active en nous l'éther luminique, qui est là quand nous sommes en contemplation et en prière. Voilà l'éther réflecteur qui est la projection du Christ. Finalement, le vénérable maître Lakshmi nous fait remarquer que le corps vital ou éthérique va se désintégrer quand nous mourrons. Bien sûr, mais si nous l'activons, lui, il nous active également. Évidemment, notre régénérescence, ou régénération, comme on veut, part avant tout de l'auto-observation de notre comportement, du prana, de la prière, de la contemplation. Donc, nous avons besoin de la résistance vitale pour tout ceci et pour supporter tout ce que nous allons avoir à supporter dans ces temps de la fin. Donc, contemplation, prière, et le Christ exerce sa lumière en nous. Donc, ce dont nous avons besoin en premier lieu, pour éveiller la conscience, c'est de savoir que nous sommes endormis. Alors, évidemment, vient S-O-L, cette clé extraordinaire qui s'appelle la clé de sol. On va la rappeler avec le maître Samael. S, c'est l'intime rappel de soi. Ne s'oublier soi-même face à aucune représentation, face à aucun événement. O, ne pas s'identifier avec quoi que ce soit, circonstance, observer sans identification, sans s'oublier soi-même. L, qu'est-ce que cet endroit où je me trouve? Pourquoi suis-je ici? Alors, l'éveil de la conscience engendre le développement du sens spatial et l'expérimentation du réel. On a parlé du sens spatial, on a dit que c'est un radar qui nous permet de voir au-delà de notre petitesse. C'est une vision pratiquement totale, à 360 degrés si on peut dire. Et donc, véritablement, cette pratique de la clé de sol va nous aider à le développer. Voilà, nous avons terminé notre thème et nous allons simplement remercier que notre béni mère Devi Kundalini nous assiste, nous protège et nous illumine. Et notre être, pour nous avoir permis ce thème, nous leur demandons de bien vouloir nous aider sur notre chemin spirituel. Évidemment, nous avons rendez-vous à 18h avec Antoine de Mangeant. Nous vous disons à bientôt. Merci encore. Au revoir.